Au bout de la plume, l'émission littéraire de Radio Alpes-Mancelles. Au bout de la plume, pour partager ensemble le plaisir d'écrire, la passion pour la lecture et faire partager vos talents d'écriture. Au bout de la plume, un rendez-vous hebdomadaire sur votre radio, à Radio Alpes-Mancelles 106.3 FM.
D'une arnaque sentimentale sur les réseaux sociaux en 2019, Véronique Poma raconte son histoire dans son livre De l'autre côté de mon écran. Pour en parler sur notre antenne, nous la recevons.
Faces, bright and early for the daily races, going nowhere, their tears are filling up their glasses, no expression, hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world, mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And I feel the way that every child should. Sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad.
Alors Véronique Pomard, bonjour.
Bonjour.
Dans un premier temps, parlez-nous de votre parcours professionnel. En effet, qu'est-ce que vous faites dans votre vie ?
Alors j'ai travaillé pendant une douzaine d'années dans l'industrie automobile. J'étais manager d'un niveau de production. Et puis depuis 16 ans, je travaille dans une école en tant que personnel d'éducation dans un premier temps et maintenant en tant que responsable de service.
Et quelle est votre formation de base ?
Ma formation de base, en fait, je suis allée que jusqu'en seconde et j'ai fait un BEP de sténodactylo, mais je n'ai jamais pratiqué dans le domaine.
Et maintenant, parlons de votre histoire sentimentale. En effet, en 2019, vous avez été victime d'une arnaque sur les réseaux sociaux. Déjà, comment a commencé cette histoire ?
Alors, c'est un homme qui m'a contacté via la messagerie de l'application Instagram. Une messagerie que je n'utilisais absolument pas, parce que j'avais installé l'application un peu de temps auparavant. Et le premier message que j'ai reçu, c'était « Bonjour, belle dame, comment allez-vous ?» J'ai répondu à ce message, alors que je ne réponds absolument jamais aux inconnus. Et je ne sais pas pourquoi, ce jour-là, j'avais besoin de répondre, c'est ce que j'ai fait. Et puis, s'en est suivi des messages très réguliers, puisque à partir de ce moment-là, je me suis sentie comme une attirance un peu irrésistible, on va dire, que je maîtrisais pas. Et puis, ça a été un engrenage infernal pendant pratiquement 3 mois.
Et vous avez été trompée notamment par le profil et par cette photo.
Oui. Absolument, c'est un faux profil. Alors à l'époque, j'avais pas forcément entendu parler des brouteurs, c'est comme ça qu'on les appelle, des gens qui arnaquent les victimes européennes. Et je n'avais pas entendu parler, je ne me suis absolument pas méfiée. Il m'avait envoyé une photo qui correspondait à un type méditerranéen, puisqu'il me disait qu'il était portugais par rapport à sa mère et français par rapport à son père, qu'il avait 49 ans, qu'il était vendeur en œuvres d'art et de voitures, et qu'il habitait Strasbourg. Voilà. Et je n'ai rien vu venir. J'ai discuté avec lui parce que j'aimais ce qu'il me disait et j'ai senti une affinité réciproque.
Et comment justement elle s'est déroulée, cette relation, si on peut l'appeler ainsi ?
Oui, alors on parlait très 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 régulièrement, c'est-à-dire à partir de ce jour-là, donc c'était le 23 mars 2019, il m'envoyait constamment des messages. Moi qui n'étais à l'époque jamais avec mon téléphone, et moi qui n'étais jamais accro aux réseaux sociaux et qui utilisais très peu mon téléphone, à partir de ce jour-là, j'ai fait que ça. Je lui parlais tout le temps, je lui parlais quelquefois jusqu'à 3h du matin. Je lui parlais à mon travail, je lui parlais tout le temps, même quand j'étais en soirée, alors que c'était absolument pas mon habitude. Je n'arrivais pas à décrocher.
Donc pour vous, une vraie relation hein, dès le départ ?
C'est ça. Évidemment, il me disait des mots que je n'avais peut-être pas forcément l'habitude d'entendre. Donc c'est peut-être ça qui a fait qu'à cette époque, j'étais peut-être fragile, mais sans le savoir, parce que je ne pensais pas avoir cette fragilité en moi. Puis, il en a profité.
Donc jamais de soupçons au premier abord ?
Non, du tout. Du tout, du tout, du tout. Cette relation, si on peut l'appeler comme ça, a duré 10 jours. 10 jours où on échangeait régulièrement, du matin jusqu'au soir, tard dans la nuit. Et au bout du 10e jour, il m'a dit qu'il avait des problèmes avec sa carte bleue, qui était bloqué, et il m'a demandé de l'argent.
Et justement, comment s'est passée cette première demande d'argent ? Comment vous avez réagi dans un premier temps ?
Alors, je n'ai pas réagi, j'ai résisté pendant 2 jours. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible, je suis tombée sur un faux profil, je l'ai même insulté, je lui en ai voulu parce qu'en fait, il m'avait laissé me laisser tomber amoureuse de lui, et je ne tombe en plus pas du tout amoureuse comme ça, c'était vraiment la première fois. Alors, c'est vrai qu'on peut dire qu'on est naïf, mais pour moi, c'était bien au-delà de ça, c'était bien au-delà de la naïveté. Je n'ai pas compris ce qui m'arrivait en fait. Et j'ai résisté pendant 2 jours, comme je vous l'ai dit. Et puis au bout de 2 jours, donc je l'ai accusé effectivement de faux profil. J'ai fait des recherches sur Internet. Et donc je ne voulais plus lui parler. Sauf qu'il m'a ramené vers lui avec ses mots. Et il m'a convaincu que c'était quelqu'un qui était vrai.
Et quelle était son excuse pour vous demander de l'argent ?
Alors il me disait qu'il avait dû acheter des marchandises. Et qu'il avait dû bloquer sa carte bleue pour éviter les trop grosses dépenses. Enfin, c'était un petit peu confus, je l'avoue. Et j'ai essayé de comprendre, évidemment, je lui ai posé plein de questions. Et puis après, il m'a juré que c'était la toute première fois et la toute dernière fois qu'il me demanderait de l'argent, qu'il me rembourserait à notre prochaine rencontre. Et j'ai fini par le dépanner parce que je pense aussi que je n'aime pas voir les gens dans la misère et j'étais persuadée de sa sincérité.
Il a joué sur la corde sensible, on peut le dire.
Oui, c'est ça, exactement. Et je ne me voyais plus, ne plus lui parler. C'est ça qui était vraiment très étonnant, quoi. Au bout de 10 jours, il avait créé une très grande dépendance.
D'où votre acceptation.
C'est ça. Donc c'était une petite somme, hein. C'était 150 euros. Et j'ai fini par donner, parce qu'il m'a persuadé que c'était réel.
Et ça ne s'est pas arrêté là, il vous a redemandé de l'argent.
Oui, absolument, parce que c'était même très loin. 2 jours après lui avoir envoyé cette somme, il m'a dit qu'il partait en Australie pour ses affaires, puisqu'il était soi-disant vendeur en œuvres d'art. Et puis, arrivé en Australie, il m'a à nouveau dit, dès le premier soir, qu'il avait dû bloquer sa carte bleue pour éviter de faire des gros achats. Ne connaissant pas le pays, il avait peut-être fait une erreur en bloquant cette carte bleue, mais qu'il fallait absolument que je dépanne, parce que sinon, on ne pouvait pas vendre des objets d'art, parce qu'il n'avait absolument d'argent pour avancer, voilà, pour acheter.
Du coup, vous avez continué à le croire ?
Non. D'ailleurs, mon livre s'intitule « De l'autre côté de mon écran », mais c'est aussi « Le cœur contre la raison », parce qu'en fait, je continuais à le croire, oui et non. À chaque fois, je l'insultais, je lui disais qu'il profitait de moi et tout, mais je ne sais pas pourquoi, j'avais cette petite voix qui me disait de faire attention, mais moi, j'avais envie d'y aller, parce que pour moi, c'était quelqu'un qui, je ne sais pas comment dire, je n'arrivais plus à être objective. C'est comme si on m'avait enlevé toute objectivité. Et donc après insistance et tout, parce qu'en fait je ne l'ai pas cru tout de suite, hein. Et j'ai fait aussi encore des recherches et tout, je me suis dit c'est pas possible, c'est un faux profil et tout, il profite de moi. Mais à chaque fois avec ses mots, il me convainquait. Donc c'est ça qui est dingue.
Et combien d'argent au total il vous a escroqué ?
En tout, 8 450 euros exactement.
Et vous avez décidé après de déposer plainte. Comment ça s'est passé ?
Alors d'abord, j'ai gardé ce secret, si on peut l'appeler comme ça, pendant 6 mois, c'est-à-dire de mars jusqu'à octobre 2019. Et puis un jour, j'étais vraiment pas bien parce qu'en fait, au-delà de l'argent que je lui avais donné, sentimentalement, j'étais absolument pas bien. J'étais tellement dépendante de lui que je lui écrivais constamment alors qu'il me réclamait de l'argent tout le temps. Je lui en donnais plus, mais il me réclamait tout le temps. Et je me suis confiée à une amie que je pleurais un dimanche après-midi. Et elle m'a convaincue d'aller voir la gendarmerie. Donc c'est ce que j'ai fait le 2 novembre 2019, je crois.
Donc vous vous êtes rendu compte que c'était un beau parleur.
Oui, oui. Et le pire dans tout ça, c'est que malgré le fait d'avoir porté plainte, j'aurais dû couper les ponts et je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas. Il fallait que je lui parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors évidemment, je lui ai demandé plein de fois qu'il me dise enfin la vérité, mais il n'a jamais avoué.
When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case, I could offer you a warm embrace to make you feel my love. When the evening shadows and the stars appear and there is no one there to dry your tears, I could hold you for a million years to make you feel my love. Out in my mind where you belong, I'd go hungry, I'd go black and blue, I'd go crawling down the avenue. No, there's nothing that I wouldn't do to make you feel my love. Nothing that I wouldn't do, go to the ends of the earth for you, to make you feel my love, to make you feel my love.
Mais il me semble qu'à un moment, cet arnaqueur, il s'est dévoilé.
C'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'en décembre 2019, il est parti d'Instagram. Alors là, c'était mon monde qui s'écroulait. Je ne m'étais jamais vue comme ça, je ne me reconnaissais absolument pas. Mais après, je dois ce salut parce que je lui ai parlé tout le temps et le fait qu'il parte d'Instagram, voilà, comme ça, on a coupé court à nos conversations. Et en mars 2020, il s'est dévoilé tout son vrai jour.
Et justement, pourquoi vous avez continué à échanger avec lui ?
Alors, parce que j'avais besoin de comprendre, dans un premier temps, pourquoi est-ce qu'il avait fait ça. J'avais besoin de comprendre. Alors moi, je suis une personne qui pardonne, parce que pour moi, le pardon, c'est important, et j'ai pas envie de vivre avec de la rancœur. Et j'ai échangé, mais très longtemps avec lui, hein, puisque alors c'était beaucoup moins régulier, évidemment, que quand il s'appelait Philippe. Et donc, j'ai échangé avec lui pendant 2 ans. J'avais besoin de comprendre pourquoi. J'avais besoin de comprendre aussi les conditions de vie à Abidjan, parce qu'effectivement, ils ont pas d'argent. Mais j'ai su aussi, Junior vient d'une famille pauvre, j'ai su aussi que mon argent avait servi à nourrir sa famille, à aider son père qui était à l'époque à l'hôpital, enfin, soi-disant, hein, c'est pareil. Hein. Et puis, il s'est aussi acheté des choses qui étaient un peu plus inutiles, comme un ordinateur, renouveler sa garde-robe, s'acheter un téléphone, voilà. En fait, les Africains, ils n'ont pas la notion de l'argent comme nous. Ils dépensent tout sans compter. C'est-à-dire qu'ils sont capables de dépenser 20 000 euros en une journée.
Et est-ce que, à travers cette histoire, vous semblez avoir été berné, on a peut-être profité de vous? Est-ce que vous vous êtes trouvée naïve sur cette histoire?
C'est marrant, parce que j'emploierai pas ce mot, parce qu'après, je suis allée voir un psychothérapeute pour essayer de comprendre mon fonctionnement. Je suis pas le genre de fille qui s'attache comme ça, en plus. C'est bien ça, le problème. Et là, ils ont les mots pour ça, on tombe dedans et on a l'impression qu'on ne peut rien maîtriser. Et pour le coup, donc, je dirais pas que j'étais naïve, mais je dirais que j'avais un moment de fragilité. J'étais fragile, plutôt.
Donc tout le monde peut être berné, hein, par ce genre d'arnaqueur.
Absolument, mais en ce moment à la télévision on entend beaucoup parler. Depuis que j'ai fait cet article dans le journal, j'ai des victimes qui ont pris contact avec moi et elles me disent toutes la même chose. On a toutes été bernés, oui, et effectivement, puisque c'est des faux profils, hein, et ils ont profité de nous. Hein. Mais moi, j'avoue, je le redis encore, j'emploierai pas le mot naïveté. Pour moi, c'est irrationnel. Voilà, c'est exactement ce mot-là.
Alors, toute cette histoire, vous l'avez racontée au travers d'un livre, De l'autre côté de mon écran. Oui. Expliquez-nous pourquoi vous avez choisi dans un premier temps ce titre.
J'ai mis longtemps à choisir ce titre, déjà. J'avais appelé mon livre au tout début, enfin pendant longtemps, je l'ai appelé Le cœur contre la raison. Parce que dans ce livre, la particularité de ce livre, et mon éditeur vous le dira, et c'est ce qui lui a plu, c'est que je mets en exergue la petite voix de ma conscience qui me dit « mais n'y va pas, c'est pas bien ce que tu fais, arrête ». Et c'est pour ça que j'avais appelé ce livre « Le cœur contre la raison ». Mais je m'étais dit « c'est pas assez fort, ça va pas parler forcément à tout le monde ». Et c'est pour ça que je finis par l'appeler « De l'autre côté de mon écran ». Voilà. Et par contre, j'ai gardé le deuxième titre que j'ai mis en plus petit.
Et pourquoi avoir choisi justement de raconter votre histoire dans ce livre ?
D'abord, c'est parce que ça me ressemble. Moi, j'ai toujours aimé pas forcément écrire, parce que c'est vraiment la première fois, toute première fois où j'écris un livre. Alors, j'ai écrit des textes et tout, des nouvelles, des récits courts, mais ça n'avait jamais été très, 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 très long. Donc, c'est d'abord une méthode qui me ressemble. Et aussi, au-delà de parler de mon expérience, que je mettrai aussi entre guillemets, voilà, pour moi, c'est plus une leçon de vie. Et je veux que ça serve à d'autres personnes. Je veux alerter, je veux prévenir, je veux mettre en garde. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre.
Et justement, il s'adresse à qui ?
Il s'adresse à tout public, c'est-à-dire les femmes comme les hommes, puisque je sais qu'il y a des hommes qui se sont fait avoir. Ils peuvent s'adresser aussi à des femmes, pas forcément, je parle des réseaux sociaux dans ce livre, bien sûr, mais je parle beaucoup de dépendance et de manipulation. Donc j'ai des lectrices qui ont lu ce livre, qui n'ont pas été bernées sur les réseaux sociaux, mais qui ont été dépendantes affectives. Et elles m'ont dit qu'elles se retrouvaient dans ce livre. Donc il peut s'adresser aux adolescents aussi, aux seniors, parce que je pense que les brouteurs, ils viennent chercher les gens qui ont entre 40 et 60 ans, enfin les gens seuls surtout, parce qu'on a besoin d'attention. Et voilà, je dirais qu'il s'adresse à tout public.
Et comment vous l'avez écrit, ce livre ?
Alors, l'écriture a quand même pris 2 ans et demi de ma vie, puisque j'ai commencé en février 2020 et j'ai terminé en septembre 2021. Ça, c'est pour la première version, parce que j'étais tellement dans la colère, dans la justice, et je déballais, si je peux appeler ça comme ça, tout ce qui me passait par la tête. Après, évidemment, je me suis posée, j'ai refait des phrases, j'ai fait des chapitres. Et chaque chapitre est agrémenté d'une citation. Alors, le manuscrit était très gros puisqu'il faisait 230 pages A4, ce qui fait qu'il aurait fait un livre de 450 pages. On m'avait parlé en parallèle d'un éditeur, donc Pierre, des éditions En Chemin de Fougeray, puisque je travaille dans une école et c'est une enseignante qui m'a parlé de lui. Le jour où j'étais prête, je lui ai confié ce manuscrit de 230 pages. Il m'a donné son accord en décembre 2021, mais il m'a confirmé qu'il fallait que je le réduise de moitié, parce qu'un livre de 450 pages, c'était pas vendable. Donc j'ai totalement réécrit ce livre de janvier 2021 jusqu'en mai 2022. De mai jusqu'en septembre 2022, nous avons corrigé, repris des phrases, et en septembre, le 28 septembre 2022, il est enfin sorti. Voilà.
Et ce livre, comment on peut le caractériser ou le définir ?
Alors, ouais, c'est une très bonne question. On peut le caractériser, je dirais que c'est un livre témoignage. Et encore une fois, qui peut s'adresser à tout public. Je pense que toute personne en fragilité peut se reconnaître.
Et où peut-on le retrouver ? Où peut-on l'acquérir ?
Pour résumer, mon livre, c'est le 38e des éditions Chemin. Et donc, nous avons un local ouvert au public le mercredi matin à La Flèche de 9h à 12h30, 23 rue Carnot. En dehors du mercredi matin, il peut aussi être acquis par notre imprimeur Éric Touché qui imprime tous nos livres. Donc, c'est un petit peu plus loin dans l'impasse, c'est 25 rue Carnot. Donc ça, c'est du mardi au vendredi. Il est aussi vendu sur le site des éditions Chemin. Et on peut aussi me contacter via Messenger parce que je les vends aussi moi-même. Voilà.
Et justement, vos différents contacts pour ceux qui souhaitent plus de renseignements sur vous, votre histoire et notamment ce livre.
Je vais vous communiquer mon adresse mail, je préférais. veronique.pomard21@gmail.com.
Est-ce que vous avez des projets en perspective, peut-être des projets d'écriture ?
Oui, j'ai aussi écrit en parallèle, enfin, il n'y a pas très longtemps, c'est aussi sorti aux éditions Chemin. Nous avons un recueil de nouvelles dont le fil conducteur est l'Anjou. Et nous sommes 11 auteurs à écrire dans ce recueil. Et Pierre m'a demandé cette année de rejoindre les auteurs précédents. Et donc cette nouvelle est publiée dans le livre qui s'appelle « Dans l'encrier de la douceur angevine », tome 3. Donc voilà, j'ai écrit une nouvelle dans ce livre-là.
Un mot pour la fin ?
Oui, un mot pour la fin. Alors, je ne regrette rien. J'ai été une période où j'étais pas bien financièrement, pas bien sentimentalement, mais je ne regrette plus rien. Alors évidemment, il ne faut pas que ça arrive à tout le monde. Hein. Il faut faire très très attention sur les réseaux sociaux. Voilà, cet événement m'a permis de rebondir et puis voilà, de donner un sens, je dirais, à ce que j'avais envie de faire par la suite, parce que l'écriture, c'est toute ma vie maintenant. Et donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que suite à ce livre, j'avais aussi fait une formation de correctrice professionnelle et que j'ai créé ma boîte, ma micro-entreprise littéraire, L'essence des mots, où je vais proposer des services de correction, de rédaction et d'écrivain public. Voilà.
Alors Véronique Pomard, je vous remercie et j'espère qu'à travers notre échange, les gens se méfieront des demandes sur les réseaux sociaux et j'espère qu'ils n'hésiteront pas à acheter votre livre témoignage. Je vous dis au revoir.
Au revoir, merci beaucoup à vous. Start me and my broken heart, yeah. Shotgun.